la corruption de la parole et de l'écriture est la marque de toutes les autres corruptions. Elle en est à la fois l'effet et la cause. Et l'on ne peut songer à purifier l'une ou l'autre sans purifier son âme elle-même. La période où nous vivons est à cet égard pleine de périls. Il faut veiller pour les conjurer. Cette réflexion de Louis Lavelle date de 1942. Elle transcende néanmoins les époques. Il ne sera sans doute jamais démodé tant qu'il y aura des hommes et qu'il y aura parmi eux ces veilleurs appelés philosophes. À l'ère de la communication, ce n'est pas le langage qui est en danger, mais précisément la parole et l'écriture. Par quoi sont-ils obscurcis? Et comment pouvons-nous retrouver leur vocation originelle? En réalité, nous échappons aux exigences de la parole et de l'écriture comme nous le faisons avec notre existence. Nous acharnons à occulter l'étonnante présence en refusant d'accueillir la puissance d'émerveillement qu'elle nous propose à chaque instant. Par peur, par lâcheté, mais surtout par inertie et par facilité. Nous nous laissons entraîner dans le fleuve insipide et ininterrompu de la conversation. Parler ou écrire se confondent alors avec l'économie du monde. Il s'agit seulement d'épouser les lignes de force qui s'expriment dans les soubresauts de la matière et dans le retour des besoins. La parole et l'écriture ne prennent sens qu'en brisant le cercle de la quotidienneté. À force de solitude et de silence, nous rendons à même d'écouter et de participer, en retenant nos mots à ce qui sauve et exige le plus grand dévouement. Bref passage du livre « La parole et l'écriture ». Mais la parole et l'écriture sont les instruments par lesquels les hommes se communiquent leurs pensées. C'est par elles qu'ils agissent les uns sur les autres, qu'une idée, qu'un désir, né dans le secret de quelque conscience, et qui n'était en elle que de timides possibilités, s'en échappe tout d'un coup, acquiert on ne sait quelle subtilité, on ne sait quelle subtile réalité, qui s'insinue dans d'autres consciences, où elle produit un mouvement mystérieux qui entraîne aussi le corps. Le propre de l'écriture, c'est de susciter un effort spirituel, qui, pour m'obliger à prendre possession de moi-même, m'oblige à me réaliser. Cela n'est point vrai de la parole, du moins avec la même force, car elle s'abolit aussitôt, au lieu que l'écriture laisse un corps qui me rend un spectateur de moi-même et sur lequel je me juge. Écrire un livre, c'est apprendre à se former, c'est-à-dire se trouver. L'écriture est un art secret et solitaire où l'auteur prend possession de sa pensée sans avoir besoin de la montrer aux autres. La force de la parole est une force d'un moment, mais celle de l'écriture se communique à notre pensée dès qu'elle s'y applique. C'est parce que la parole s'engage dans le temps qu'elle est si vivante. En elle, le spirituel s'est fait lui-même charnel. Elle est toujours actuelle et animée. Il faut qu'elle nous remue. Le propre de l'écriture, c'est de capter l'éternel dans le temporel, c'est-à-dire de nous obliger à nous porter nous-mêmes dans le temps, au-delà du temps. Aussi, la véritable marque de l'humilité, c'est de penser que, loin de pouvoir jamais rien nous donner, nous ne réussissons jamais à prendre tout à fait possession de tout ce qui peut nous être donné. Chaque ligne que nous écrivons est comme un essai de l'inspiration. Nous ne la reconnaissons pas toujours et nous n'avons jamais pour la saisir assez d'ouverture ni assez de docilité. La règle de l'inspiration, c'est de ne jamais permettre que je m'appesantisse sur ce qui se découvre à moi dans une lumière brève et suffisante. D'accueillir ce que je reçois sans rien demander au-delà, de surprendre l'instant où le contact se produit entre l'attention disponible et la vérité offerte, et quand il est rompu, de ne point essayer de le retenir, ou quand l'occasion est passée, de ne pas s'obstiner à le faire renaître. On ne fait jamais rien de bon dans aucun domaine, même avec le plus grand labeur, si on n'a pas l'âme ardente et le cœur pur, si on n'a point à la fois assez de courage pour agir et de docilité pour accueillir, si l'on ne sait pas en même temps donner et recevoir, si l'on n'est point indivisiblement plein de risques et de foi, si l'on pense à des fins personnelles dont on veut se servir et non point à des fins absolues que l'on entend servir. Ce sont là aussi les règles communes de la parole et de l'écriture. Il y faut de part et d'autre cette parfaite sincérité intérieure qui n'est rien de plus que l'art de s'ouvrir à la vérité sans lui imprimer aucune déformation. Cette sorte de simplicité d'âme qui nous permet de la reconnaître et de la dire. Ce courage tranquille par lequel on s'engage tout entier et l'on ne réserve jamais rien. Cette présence offerte à la totalité du monde sans laquelle on reste prisonnier de l'instant et de soi-même. Le langage ne nous montre les choses que pour les rapporter à leur source, et c'est cette source même qu'il évoque plutôt que les choses qui en jalonnent et en divisent le cours. Il a d'autant plus de pureté qu'il procède par allusion plutôt que par désignation et que, derrière chaque objet sur lequel il se pose, il nous rend sensible à la vie qu'il anime, à l'acte spirituel dont il est le témoin. Il faut qu'il remonte toujours à la source et qu'en suivant l'eau qui court à travers les herbes des prés et jusqu'à la cime des feuillages, il lui laisse toujours le goût de la source.